Merci de choisir Studio Kalangu pour vous informer. Nous sommes mercredi 31 janvier 2024. L'édition de 17h, c'est avec Rocket Top Draman. Au sommaire, le ministère de l'Intérieur, dans une correspondante en date du 31 janvier 2024, suspend l'autorisation d'exercice accordée à la Maison de la Presse jusqu'à nouvel ordre. À suivre les détails dans ce journal. Pour aller en pèlerinage à la Mecque cette année, il faut débourser 3 250 000 francs CFA selon un arrêté du ministère du Commerce. Plus de précisions dans un instant. En partie magazine de ce soir, le reportage de notre envoyé spécial à Kayes au Mali sur la cohabitation entre les migrants nigériens et les autochtones. Bonsoir fidèles auditeurs, auditrices, merci de nous recevoir. Je l'annonçais par un arrêté en date du 31 janvier 2024, le ministère de l'Intérieur suspend jusqu'à nouvel ordre l'autorisation d'exercice accordée à la Maison de la Presse. Selon le même arrêté, il est créé un comité ad hoc de gestion de ces structures fêtières, des structures des organisations des médias. Ce comité a comme président, le SG du ministère de l'Intérieur, et le rapporteur, le SG du ministère de la Communication. Dans un autre arrêté, cette fois-ci du ministère du Commerce en date du 30 janvier 2024, le prix plafond du hajj cette année est fixé à 3 250 822 francs CFA. L'annonce a été aussi faite par le ministère du Commerce, Seibou Assmane, lors d'une rencontre qu'il a présidée à son cabinet en présence des responsables du Haut Commissariat à l'organisation du hajj et de la Umra Koho, des agences de voyage et associations des consommateurs. Comparé à l'année 2023, le prix reste inchangé. Dans un communiqué sur X, l'ex-Twitter, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit apprendre avec un regret l'annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Le président de la Commission appelle à la conjugaison des efforts pour que l'unité de la CEDEAO soit préservée et la solidarité africaine renforcée. Il engage les leaders régionaux à intensifier le dialogue entre la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les trois pays de l'AES. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé dimanche leur retrait à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Quel sera l'impact de ce retrait sur l'économie de ces trois pays? Hamadou, spécialiste des questions économiques, répond au micro d'Alamine Ouachar.
Le Niger, le Burkina Faso et le Mali qui quittent la CEDEAO, cela signifie que des droits de douane pourrait être imposé à nouveau sur les biens commerciaux échangés entre les pays sortants et les autres pays membres restants de la CEDEAO. En ce qui concerne la libre circulation des capitaux dans le cadre de l'intégration économique en CEDEAO, peut également être affectée. En l'absence d'autres traités particuliers entre États, les entreprises et les particuliers des pays membres restants de la CEDEAO pourraient donc désormais faire face à des restrictions lorsqu'ils essaient de transférer des fonds ou d'investir au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et réciproquement, les citoyens du Mali, du Niger et du Burkina Faso, s'ils souhaitent aussi faire des transferts de fonds ou investir dans les pays restants de la CEDEAO, ils pourrait faire face à des restrictions dans ce domaine-là.
Face au développement de la situation politique en Afrique de l'Ouest, marquée par le différend qui oppose la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'Alliance des États du Sahel, AES, certains acteurs et observateurs des questions politiques et sécuritaires se prononcent. C'est le cas de Fatoumata Meïga de l'Association des femmes pour les initiatives de paix au Mali, également experte des questions sécuritaires dans le Liptako Gourma. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial, Tarnan Foudé.
La CEDEAO, qu'on le veuille ou pas, c'est l'une des meilleures organisations régionales. Il faut saluer les pères fondateurs de la CEDEAO qui ont eu l'esprit communautaire par rapport à cela. Il faut aller voir de l'autre côté, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, comment ça se passe. Maintenant, l'AES, qui a été décidée par les trois chefs d'État, malheureusement, qui sont tous issus du coup d'État. Je ne sais pas après, quand ils vont organiser les élections, les chefs d'État qui vont prendre en main les destinées de nos trois États, est-ce qu'ils vont continuer avec l'esprit ou pas? Mais je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est pas un état-major commun. Comme le G5 Sahel, et chaque pays reste chez elle. Et chaque fois qu'un pays a besoin de l'assistance militaire d'un autre, tout le monde va, on vient, on gère le problème et chacun retourne chez lui. Donc personne ne peut dire non, c'est mon argent qui est là, donc si c'est mon argent, il faudrait qu'on informe un tel, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies donne son feu vert. Ça n'existe pas là, ce qui veut dire que ça peut bien marcher.
Autre aspect de ce journal, le procès intenté par la société civile d'Agadez à la société des mines de Dassa Soumida continue sa route. Après les tribunaux d'Agadez et Tawa, ce matin, les protagonistes étaient au tribunal de grande instance de Niamey. Le procès est mis en délibéré pour le mois de mars. Aïssami Kiroma Mahamadou, acteur de la société civile au Rotab, donne des détails au micro de Hassan Nourou Abdrahman.
Nous sommes venus pour assister à l'audience relative aux différends entre la société civile d'Agadez et la société des mines de Dassa, la Soumida, relatif à l'étude d'impact environnemental que la société a menée. Donc la loi oblige toute société minière qui veut commencer donc son exploitation de mener une étude d'impact environnemental donc de son activité. Cette étude d'impact environnemental ne prenait pas en compte les aspirations ou certaines observations des communautés riveraines. La justice a écouté les parties et il ne s'est pas prononcé, il a mis les délibérés en mars. Donc il va se prononcer ultérieurement.
Sur un tout autre plan, le tourisme intérieur au Niger connaît des difficultés depuis quelque temps. Plusieurs raisons expliquent cela selon les spécialistes du domaine. Parmi ces raisons, il y a le départ de beaucoup d'expatriés du Niger après les événements du 26 juillet 2023. Anafi Souleyman, directeur général de la promotion du tourisme, explique la situation au micro d'Alamino Achar.
Le tourisme interne, ce sont les activités des visiteurs résidant à l'intérieur du pays comme ceux qui sont venus de l'intérieur à l'intérieur du territoire national. Globalement, la situation du tourisme au Niger, depuis la dernière décennie, en tout cas depuis 2012, l'insécurité a fait que beaucoup de chancelleries occidentales avaient déjà placé le Niger comme zone rouge, ce qui signifie que les ressortissants ne sont pas autorisés à venir visiter le Niger pour des questions de loisirs, notamment européens et américains. Et les infrastructures qui ont été construites ont été adaptées aux besoins et aux portefeuilles de ces clients-là. Avec la nouvelle situation, née des sanctions imposées par la CEDEAO et l'UMOA, et la demande officielle de l'État du Niger de départ de certains expatriés qui ont quitté, donc le tourisme intérieur, il bat un peu de l'aile.
Direction Maradi, pour parler innovation, le ministère de l'Agriculture met en œuvre un nouveau programme agricole dénommé la Grande Irrigation. L'État s'engage ainsi à faire de l'agriculture irriguée sur 21 000 hectares afin de produire essentiellement des céréales. C'est l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, qui est choisi pour ce travail. Pour le lieutenant-colonel Bilal El-Hajj Gambobo, directeur général de l'ONAHA, il s'agit de chercher l'autosuffisance alimentaire. Il est au micro de Mohamed Mama.
Avec ce contrat-plan, plus les partenaires, plus d'autres opportunités, on compte réaliser les 5600 hectares par an. Ça concerne non seulement les 8 régions du Niger, ça concerne aussi les existants, les aménagements hydro-agricoles existants. Réellement, c'est pour tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'avec tout ce qu'on a eu ces derniers temps, tout ce qu'on a eu avec l'événement du 26 juillet, on s'est rendu compte qu'en réalité, la chose la meilleure qui puisse nous arriver aujourd'hui, c'est de chercher le mécanisme, se nourrir et avoir la possibilité, nous aussi, d'exporter. Et c'est faisable. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de les réaliser parce que l'État est doté de moyens nécessaires de sa mise en œuvre. Le terrain, normalement, ça ne doit pas causer de problème. La chose la plus importante, c'est la décision politique, l'engagement de l'État à réaliser. Et l'engagement, je vous assure qu'il est ferme.
Du sport à présent, les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 ont pris fin hier. Les Lions de l'Atlas du Maroc et les Étalons du Burkina Faso sont éliminés à la porte des quarts de finale de cette compétition. Huit pays disputeront les quarts de finale qui débuteront le 2 février prochain. Les matchs qui seront disputés seront équilibrés et passionnants, estime Lawali Garba, spécialiste en football. Il est au micro de Salamou Kadri.
Parmi ces pays éliminés, il y a les traditionnels favoris qui ont mordu la poussière. Nous avons le Cameroun, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc. Toujours parmi ces équipes éliminées, nous avons eu des surprises qui proviennent de la Guinée équatoriale, qui a fait sensation au niveau de cette CAN. Nous avons aussi la Mauritanie, qui a fait des merveilles, et le Burkina aussi. Donc, les affiches des quarts de finale seront des affiches très passionnantes, très alléchantes. Ça va commencer à partir du 2 février avec les premiers matchs, un match très attendu qui va opposer le Nigeria à l'Angola, deux potentiels prétendants au sacre final. Il y aura en perspective des duels très alléchants et ce sera une compétition très relevée.
Et puis la partie magazine qui nous amène au Mali où plus de 2000 Nigériens vivent dans les villages de Kaï, région située à près de 500 km au nord-ouest de Bamako sur les rives du fleuve Sénégal. Partis pour des raisons diverses, ces migrants nigériens s'adaptent à leur nouveau milieu de vie. Comment cohabitent-ils avec les autochtones maliens? Suivant le reportage de Tarnan Foudé Ahmed de Retour de Kaï.
Nous sommes venus ici, nous sommes rentrés de la restauration. Nous vendons du riz et de la viande. Ça fait presque 30 ans qu'on fait ce travail. Vraiment, on n'a aucun problème avec les habitants de cette ville.
Mariama, appelée aussi Baka, migrante nigérienne, vit à Kaï depuis une trentaine d'années. Son expatriation du Niger vers le Mali commence avec son mari décédé depuis quelques années. La soixantaine révolue, cette mère de sept orphelins affirme vivre en parfaite symbiose avec des Kaïsiennes.
Nous avons des orphelins, ils sont au nombre de sept. Ils étudient tous ici au Mali. Il y a un qui fréquente l'école coranique et les autres l'école moderne. Après leur descente, ils viennent m'aider. Et quand ils partent à l'école, je me débrouille toute seule.
Un peu plus loin du restaurant de Mariama, nous croisons Moussa Mak Iridi Abo, un autre Nigérien installé à Kaï depuis 23 ans. Forgeron de profession, il confectionne un couteau au moment de notre entretien sous son hangar. Nostalgique, Abo nous parle de sa vie loin de son Niger natal.
Nous sommes bien ici, Dieu merci, nous n'avons aucun problème. Je suis venu à Kaï pour la première fois en 2001. Je fabrique des couteaux que je vends au boucher. Notre cohabitation avec les autochtones se passe bien, nous sommes des frères.
Les Maliens rencontrés à Kaï salient cette cohabitation. Elle se renforce par des liens de mariage. Témoignage d'un Kaïsien trouvé dans les environs de la forge d'Abo.
C'est une ville de retrouvailles parce que ici il y a beaucoup de Nigériens installés. D'autres ont pris des femmes malinquées ici.
Si le mariage cimente l'intégration des Nigériens à Kaï, la vie s'avère moins rose que prévu. Des problèmes quotidiens les préoccupent.
Souvent, nous rencontrons des problèmes avec les autorités de ce pays. Nous possédons la carte d'identité nigérienne, mais nous n'avons pas la carte de séjour. Nous sommes obligés de payer une amende de 5000 francs CFA pour traverser la frontière.
Quand tu es étranger dans un pays, c'est normal que les autorités de ce pays demandent aux ressortissants des autres pays de régulariser leurs papiers ou leur situation.
Considérée comme la plus grande région de la migration ouest-africaine, la région de Kaï se développe aussi grâce à cette diversité culturelle. D'ailleurs, on l'appelle Kaïville, la coquette minute de l'Afrique.
Cette édition d'information, merci de l'avoir suivie. Dans un instant, l'édition en tamajek avec Habiba Ahmed.